IDFM Radio, le média valdoisien.
Bonjour à tous et bienvenue, Jacqueline Voraz sur IDFM Radio avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Nous sommes mardi 6 février, excellente journée sur IDFM Radio, la radio en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Retraite, prévoyance, patrimoine, linguistique, RGPD, ce matin l'économie en direct, tout savoir sur les placements retraite et prévoyance, sur la dictée pour tous et sur la protection des données, des thèmes décryptés par des spécialistes en la matière et que j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios. Bonjour Dominique Etcheverry.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être venue en voisine partager cette matinée avec nous. Chef d'entreprise en tant qu'agent général d'assurance exclusif AXA, spécialisé dans les domaines de la prévoyance et patrimoine, vous nous présenterez votre activité, ses produits, ses services et les compétences nécessaires pour l'exercer.
Avec plaisir.
À vos côtés, Abdellah Boudour. Bonjour Abdellah.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer.
Également.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin chez IDFM Radio. Il va falloir parler un peu plus fort, Abdellah, je crois, si nos auditeurs veulent nous entendre.
Désolé, j'ai augmenté la voix.
Oui. Fondateur de la Dictée pour tous, un événement autour de la langue française et qui se décline aujourd'hui sous différentes bannières. Vous nous expliquerez comment est né ce concept intergénérationnel et toutes les valeurs qu'il véhicule.
Avec plaisir.
Et à vos côtés, Nathalie Lemarchand. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jacqueline, enchantée d'être là.
Enfin, moi je peux vous accueillir chez IDFM Radio, Nathalie, fondatrice de NLC, une entreprise dont l'objectif est de sécuriser les entreprises de vos clients et vos clients eux-mêmes en prenant des mesures correctives pour préserver l'intégrité et la maîtrise de leurs données.
Tout à fait.
Merci et bienvenue d'être les invités en direct sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Une émission, bien sûr, à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli. Ce matin, pas de chronique et donc tout de suite, je me tourne vers vous, Dominique Etcheverry, pas le temps de souffler. Alors, Dominique, comment devient-on gérante d'un cabinet AXA exclusif prévoyance et patrimoine?
Alors, je me suis installée il y a 22 ans, 23 bientôt, à Taverny. J'étais dans le prêt-à-porter spécialisé. Je travaillais pour Balenciaga Uniforme. Et puis, j'avais toujours eu dans l'idée de m'installer à mon compte. Et c'est vrai que ce domaine d'activité m'avait toujours plus ou moins attirée. Le social, le fiscal, le juridique me plaisait beaucoup. Et j'avais pas vraiment d'opportunités qui s'étaient présentées à moi pour aller dans ces domaines-là. Et puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai eu besoin de donner un vrai virage à ma carrière. J'ai eu une opportunité, je suis rentrée chez AXA. Voilà, j'ai démissionné et je suis rentrée chez AXA.
Et aujourd'hui, après 22 ans, on peut dire que vous ne le regrettez pas?
Je n'ai aucun regret, j'adore ce que je fais. Je suis donc indépendante, donc c'est un autre stress bien sûr, mais que je n'échangerai pour rien au monde. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui m'accompagnent qui me suivent depuis toujours. L'activité se développe dans d'innombrables domaines, dans d'innombrables secteurs d'activité et tout le monde est concerné par ce que je fais, parce que l'assurance de personne,
c'est
ça concerne
quotidien.
Tout le monde.
Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Créé avec le soutien du groupe AXA, ça procure peut-être un double avantage pour les clients, c'est-à-dire un réel suivi de proximité d'une part,
oui.
Et puis la garantie du groupe AXA, leader mondial dans le domaine des assurances.
Oui, c'est une vraie signature. C'est un gage de qualité et de pérennité pour nos clients. Donc c'est un énorme atout pour nous. On est à peu près 1000 agents répartis sur tout le territoire et chacun développe son activité comme il l'entend, à la cadence qui lui convient, voilà.
Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire, vous dites 1000 agents. C'est vrai que moi j'ai déjà reçu d'autres agents AXA et on comprend qu'il n'y a aucune concurrence entre vous, c'est-à-dire vous avez visiblement, ça se répartit bien, il me semble.
Voilà, on a déjà les clients qui nous ressemblent, déjà.
C'est ça, ouais.
Et on n'est pas du tout sectorisé. Idéalement, évidemment, c'est de travailler sur son secteur, mais le jeu des recommandations peuvent vous amener vers d'autres contrées.
Il y a une grande liberté.
Complètement. Moi, j'ai des clients au Mans, j'en ai à Lille, j'en ai à Lyon. Ça s'organise très bien. Bon, évidemment, l'essentiel de ma clientèle se trouve sur Paris.
Oui, sur l'île de France.
L'île de France, bien sûr, mais la province n'est pas du tout un blocage et j'y vais même assez fréquemment.
Et donc, avant d'aborder un thème qui vous tient à cœur, qu'on va développer tout à l'heure, et à savoir le PER, quelles sont les compétences qui font que ça marche bien pour un agent AXA auprès de sa clientèle ?
Déjà, nous avons... déjà, on est indépendant. Donc, nous ne sommes pas des gens volatiles. On est très assis dans notre fonction, très installés. Et notre rôle, c'est on est un chef d'entreprise, en quelque sorte.
Oui, vous êtes directement concernés.
Complètement. Et ensuite, nous avons une approche sur mesure. Lorsqu'on rencontre un client pour la première fois, il vous livre sa vie.
Vous êtes un peu un confident.
Complètement. Parce que l'idée est de lui mettre en place des solutions pour lui, souvent chef d'entreprise, pour sa famille, pour protéger sa famille, et puis aussi pour prévoir son avenir. Et donc tout ça se fait dans le cadre d'une étude sociale et patrimoniale. Et si on veut vraiment lui mettre un programme de solutions sur mesure, on passe automatiquement par le bilan. Et le bilan, ça suppose donc un entretien et un suivi régulier sur le long terme, avec un partage d'informations très personnelles, mais qui sont essentiels pour nous pour adapter le conseil.
C'est ça, et pour être au top, pour mieux conseiller vos clients. En vous écoutant, je me dis aussi que donc vous nous avez dit que vous veniez du prêt-à-porter, donc vraiment un autre domaine. Il a fallu vous former.
Absolument.
Et ça a été compliqué ou ardu?
Moi, j'en garde un souvenir assez ardent, on va dire, parce que je me suis ce changement d'activité, j'avais 38 ans. Et donc, vous êtes immergé dans un centre de formation pendant 3 mois et vous travaillez, c'est quasiment H24, c'est-à-dire que vous vous remettez à bachoter et à travailler sur des sujets que vous n'avez pas forcément abordés. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je reconnais que moi, ça m'a demandé énormément d'investissement personnel. Mais bon, le plus dur après...
Ça vous a pas découragé,
non,
en tout cas.
Non, du tout, du tout. Je me suis beaucoup accrochée. C'est vrai que AXA est derrière. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont beaucoup soutenue, accompagnée. Et j'en garde vraiment un souvenir très fort. Et puis ensuite, le plus dur reste à faire, parce qu'après il faut développer sa clientèle,
c'est ça, et puis s'adapter à chaque client.
Exactement. Exactement. Donc moi j'ai démarré assez vite, et c'est vrai que c'est en voyant et en faisant que vous commencez à voir un petit peu la cible qui vous convient, ce pourquoi vous aimez travailler.
C'est ça, ça vous avez vous avez un panel en fait de produits et vous pouvez vous diriger plus vers l'un que vers l'autre, c'est ça?
Oui, il y a des gens qui ont déjà des solutions en place et auxquelles il ne faut surtout pas toucher. Il faut savoir être objectif et y aller avec tact et mesure, parce que faire résilier des contrats pour faire du contrat, enfin, c'est pas du tout professionnel et c'est même pas très éthique. Donc voilà. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement sur la table tout ce qui existe, de recenser tous les actifs d'un client en matière d'épargne financière, en matière de patrimoine immobilier, et puis également tous les contrats qu'il a pu mettre en place à un moment donné de sa vie, soit avec quelqu'un comme moi, soit sur le coin du comptoir d'une banque. Et à ce moment-là, les choses s'accumulent, on ne sait même plus ce qu'on a, et l'idée, c'est de faire un point déjà sur tout ce qui existe.
C'est ça. Voilà. Oui. Avec parfois des belles surprises quand vous rencontrez des clients auxquels vous ne vous attendez pas et qui vous font signer des beaux contrats. Vous m'aviez raconté ça un jour.
J'ai eu de très très belles opportunités comme ça, des gens avec qui ça a matché du premier coup, et puis ils ont envie de vous suivre. Et c'est presque même vous qui leur dites on va pas y aller trop vite, là il y a des choses qu'il faut peut-être qu'on approfondisse et qu'il faut peut-être que vous conserviez. Mais effectivement, j'ai comme ça des gens qui m'ont fait rebondir sur leurs enfants, sur leur famille, sur des gens très proches. Et puis quand c'est de la prévoyance, qu'on assure le risque immédiat comme la maladie, l'accident, enfin l'arrêt de travail ou la validité, évidemment là il y a vraiment des choses qui sont très personnelles en matière médicale, et là les gens ont besoin d'avoir une écoute, et puis surtout il faut pas leur faire n'importe quoi.
Bien sûr, oui, puisque on a compris que vous proposez des dispositifs qui viennent pallier les accidents de la vie qui n'arrivent pas qu'aux autres.
Absolument.
Encore une question et puis on va faire une pause, Dominique, pour avant d'aborder donc le PER. Votre clientèle, donc ce sont essentiellement ce ne sont pas des particuliers, ce sont
J'en ai beaucoup. Alors ma clientèle, j'ai beaucoup de professionnels libéraux. Je me suis énormément développée dans les professions de santé, mais ça a été par un jeu de circonstances, par des rencontres.
Oui, le bouche à oreille qui
a fonctionné. Voilà, exactement. Le laboratoire Sanofi qui m'a fait beaucoup intervenir auprès des médecins. Et puis comme ça, de fil en aiguille, le bouche à oreille, j'ai beaucoup développé la clientèle de médecins. Mais je n'ai pas que ça. J'ai aussi pas mal d'avocats, j'ai pas mal d'architectes.
Donc des professions libérales plutôt,
aussi.
Peut-être.
J'ai des artistes, j'ai des gens, j'ai beaucoup de paysagistes également dans ma clientèle. Voilà, des indépendants. Et puis ensuite, les gens ne sont plus indépendants parce qu'ils sont en retraite. Et là, ils ont d'autres problématiques. Voilà, et moi, je couvre tout ça.
Voilà. Écoutez, vous en parlez très bien, Dominique. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique et puis on attaque le PER.
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent le bien se trouve dans le malheur. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on n'est sûr de rien. On verra bien. Magique. Il recousse ses blessures au fil doré, cherche la lueur et insiste. T'es encore plus beau rafistolé, t'as l'impression qu'il t'affronte. Rassure-toi, ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini. chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient.
IDFM Radio, Amir, on verra bien. Ce matin, c'est l'économie en direct et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Etcheverry, chef d'entreprise, agent général d'assurance exclusive AXA, spécialisé dans les domaines de la prévoyance et patrimoine, Abdella Boudou, fondateur de la Dictée pour tous, et Nathalie Lemarchand, fondatrice de NLC, une entreprise dont l'objectif est de sécuriser les entreprises et leurs dirigeants. Dominique Etcheverry, donc on a compris que vous aviez une véritable passion pour votre métier aujourd'hui. Et parmi les produits que vous proposez, donc il y a ce fameux PER, donc je suppose le plan épargne retraite, c'est ça?
Le plan d'épargne retraite, voilà. Issu de la loi Macron, voilà, la loi Pacte.
Et qui a pour objet la constitution d'un complément de revenu payable à la retraite sous forme de rente ou de capital. Mmh. Donc, je vous laisse nous développer ce produit, Dominique.
D'accord. Eh bien, en fait, en 1994, la loi Madelin est sortie. Et les indépendants ont pu se constituer des compléments de revenus via des contrats retraite Madelin. Mais en parallèle, il existe énormément de dispositifs pour préparer sa retraite. Et la loi Pacte a eu cet avantage, celui de tout simplifier. Et elle a fait fusionner tous les systèmes de retraite facultatifs qui existaient sur le marché.
D'accord.
Donc c'est un contrat qui réunit le dispositif Madelin pour les indépendants, mais également le dispositif Fillon, donc qui est ouvert aux salariés, aussi aux indépendants, mais beaucoup aux salariés. Et donc, ça permet de déduire les cotisations que l'on verse sur ces contrats. On le déduit de ses revenus. Et le contrat est donc alimenté de vos versements. Il génère une rémunération. Et puis, à la fin de sa carrière, lorsqu'on veut récupérer, quand on veut liquider ses droits à la retraite, eh bien, on récupère son contrat. Et contrairement à l'ancien dispositif qui ne pouvait se liquider qu'en rente, exclusivement, et c'est ce qui freinait un peu les Français parce qu'ils étaient, ils sont fâchés contre la rente.
D'accord.
Pour un tas de raisons qu'il faut démystifier, mais malgré tout, ça restait un blocage important. Ce contrat a l'avantage de pouvoir se débloquer en rente ou en capital.
D'accord.
Donc, bien évidemment, tout ça, ça s'analyse à la sortie. Mais le choix est sorti. Et vous pouvez faire du partiel. Une partie du contrat liquidée en rente, une autre partie que vous récupérez en capital, sous forme de rachat total ou partiel. Après, il faut y aller avec prudence parce qu'il y a quand même une fiscalité à la sortie. Mais voilà, aujourd'hui, tous les points de blocage ont été lissés grâce à toute cette souplesse.
Donc, en nous présentant ce produit, cela veut dire qu'à un moment donné, il y a une limite d'âge pour adhérer.
Oui, parce que avec la loi des intérêts composés, plus vous commencez tôt, mieux c'est. Mm-hmm. Un effort de 100 euros à l'âge de 30 ans ne sera pas le même effort à l'âge de 50 si vous voulez vous constituer un complément de revenu de 5, 600, 700, 800 euros, bien évidemment. Mm-hmm. Donc, plus vous commencez tôt, mieux c'est. L'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier et ensuite de pouvoir monter en puissance au fil de l'évolution de vos revenus et de votre fiscalité.
Est-ce qu'il est possible, donc on comprend que ce dispositif semble intéressant, enfin j'imagine, est-ce qu'il est possible d'ouvrir plusieurs PER?
Vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut, c'est respecter le disponible fiscal auquel vous avez droit. Donc ça demande une vérification de votre avis d'imposition par rapport au dispositif Fillon et puis par rapport au dispositif Madelin qui donne une enveloppe supplémentaire selon une savante formules de calcul que je maîtrise plutôt pas mal, eh bien, on voit comme ça, en fin d'année, de combien il vous reste, de combien vous disposez comme complément de versement éventuel. Et à ce moment-là, vous pouvez alimenter votre contrat soit en madelin, soit en fillon, soit ne même D'accord. pas... Vous pouvez aussi l'alimenter et décider de ne pas le déduire. J'ai eu le cas, là, à Noël, une avocate qui avait dépassé tous ses disponibles, mais qui... pour qu'il restait encore la trésorerie. Elle veut partir à la retraite dans 3 ans. Elle a un objectif de revenu. Elle a versé une somme conséquente qu'elle n'a pas déduite.
D'accord.
Tout simplement.
D'accord.
Et donc, ce tiroir-là ne sera pas imposable à la sortie.
C'est ça. Donc, vous nous dites que au moment de l'adhésion, on est possible de déterminer sa fiscalité.
Absolument. Mmh. Vous choisissez le cadre fiscal de l'engagement annuel. Vous le choisissez à l'adhésion. Mais lorsque vous faites un versement complémentaire, vous pouvez choisir de le faire en madelin, en fillon ou de manière totalement libre. Voilà, c'est un contrat qui a 3 compartiments et on choisit le compartiment qui nous convient.
Combien de temps vous faut-il pour convaincre un client à adopter ce dispositif? Parce que ça reste quand même technique,
oui.
complexe.
Oui.
Et il faut bien intégrer toutes les notions que vous maîtrisez parfaitement.
Oui, alors ça, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de pédagogie. Je suis pas avare d'explications. Et en général, moi, lorsque je mets une solution en place, je vois le client 3 fois.
D'accord.
Voilà, et puis il reste totalement maître du jeu. À tout moment, il peut suspendre ses versements. Il peut les remettre en... Ce qu'il n'était pas possible de faire avant. Aujourd'hui, sur ce dispositif, il peut complètement les piloter lui-même. Et en aucun cas, il est ficelé. Bien sûr, ça reste un produit tunnel, parce que l'objectif, c'est de le récupérer à la retraite. Mais il y a quand même 5 cas de déblocage anticipé aujourd'hui. Et puis de toute façon, la retraite, c'est un objectif à long terme et on ne peut pas gérer ça comme un livret A. Donc, il faut de toute façon qu'il y ait une certaine rigidité, sinon on n'aboutit à rien.
Oui, il faut qu'il y ait des procédures
Absolument.
Importantes. Que se passe-t-il, parce que malheureusement ça peut arriver, que se passe-t-il en cas de décès?
Eh bien, c'est très simple. Il y a une clause bénéficiaire dans le contrat. Donc, pendant la phase de constitution de l'épargne, le bénéficiaire désigné sera celui qui figure dans la clause bénéficiaire. Tout simplement, et ça marchera comme de l'assurance vie. Voilà. Et puis, s'il y a décès pendant la phase de restitution, donc vous touchez votre retraite sous forme de rente, et ben la rente, tant qu'à faire, elle est réversible au conjoint survivant, ou alors elle sera reversée aux enfants sous forme d'annuité garantie. L'idée, c'est que la compagnie ne conserve pas les fonds pour elle. L'idée, c'est que les proches soient protégés et qu'ils récupèrent le fruit des efforts de leurs parents. Enfin, je parle des parents parce que c'est souvent les enfants. Et puis, si c'est sous forme de capital, et ben l'assuré aura récupéré une partie de son épargne à la retraite, et s'il y a décès avant que les fonds soient épuisés, et ben le capital résiduel ira aux proches.
On sent que vous nagez là-dedans comme un poisson dans l'eau.
J'adore.
Donc oui. Alors il y a qui dit plan épargne retraite dit taux de rentabilité.
Oui.
Est-ce qu'il y a un taux technique garanti?
Alors la loi Pacte prévoit qu'il n'y ait pas de taux technique garantie. Le taux technique, il n'y en a plus, c'est terminé. Aujourd'hui, on est à 0. La seule différence, c'est que chez nous, il est contractuel.
D'accord.
Et je me suis aperçue en faisant beaucoup de comparatifs que, oui, tous les contrats de tous les opérateurs sont à 0% de taux technique, donc il n'y a pas de taux d'intérêt escompté à la retraite sur la rente, mais quand rien n'est écrit, ça veut dire que si les taux deviennent négatifs, et ben les rentes versées au crédit rentier peuvent perdre tout simplement.
C'est ça.
Alors que nous, elles seront stables.
C'est donc quelque part, c'est garanti quand même.
Ça, oui.
C'est ça.
On peut pas verser moins que ce sur quoi on s'est engagé de verser.
Et donc, vous nous avez dit que ça faisait un peu plus de 20 ans que vous exerciez cette profession. Donc, vous avez forcément dû avoir dans vos clients des gens qui sont partis à la retraite.
Ah oui, ça y est.
Et donc, vous avez eu des retours de satisfaction.
Ah bah écoutez, oui, bien sûr. Alors, c'est pas du tout... c'est de l'épargne financière. Ça ne s'oppose pas à un patrimoine immobilier. Mais simplement, ça se complète. Et c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, la rente ne pose aucun souci. L'immobilier, c'est quelque chose de formidable, bien sûr, mais lorsque vous avez des locataires indélicats qui ne payent pas leur loyer et qui vous mettent en difficulté alors que vous comptez dessus pour vivre, là, vous n'êtes absolument pas gêné. Je veux dire, la rente, elle est payée tous les mois de manière très ponctuelle et il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun problème à ce niveau-là.
C'est ça. Et donc, vos clients sont heureux d'avoir contracté ce genre de plan épargne.
De toute façon, quoi qu'il arrive, il le récupère toujours. Voilà, l'avantage du... Alors aujourd'hui, si une rente annuelle est inférieure à 1320 euros, je crois, on peut récupérer le capital en cash, en sonnant et trébuchant. Ça, c'est un choix. Et voilà, et les gens arrivent à leur retraite. Moi, je leur fais un bilan retraite déjà. Hein. Je fais une étude sur la retraite des régimes obligatoires et je leur montre dans 20 ans à combien ils peuvent s'attendre, avec évidemment beaucoup d'incertitudes. Puisque on sait que les régimes de retraite s'étiolent beaucoup. Mais bon, ça laisse quand même une idée. Et à partir de là, on voit le complément dont ils vont avoir besoin. Et pour ça, quel est l'effort à consacrer régulièrement?
Écoutez, c'était très limpide, Dominique Etcheverry. Merci à vous pour toutes ces précisions. J'ai oublié de vous demander où vous exerciez et comment on peut vous joindre.
Alors, j'exerce à Taverny.
Oui.
Donc, je suis dans l'annuaire, Dominique Etcheverry, agence AXA. Et là, je suis en train de travailler sur mon site internet. Donc,
très
bientôt,
bien.
Je vais en avoir
donc,
un.
On va pouvoir vous trouver plus facilement encore.
Absolument. Mais sinon, oui, on me trouve sans problème. Sur internet.
Très bien, merci infiniment et merci pour cette présentation, je le répète, tout à fait claire. Je sais que vous vouliez parler de prévoyance, mais peut-être une autre fois.
Avec grand plaisir, je reviendrai
Vous êtes la bienvenue.
Merci
Dominique Etcheverry. On marque une pause, une nouvelle pause et on revient très vite à l'antenne.
Said goodbye, never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side. Never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I got psychotic. Heaven in me cry. Nobody's, only yours, not just anybody's.
just anybody's. And if you ever leave, then I'll never go on. Nobody loves.
Vous êtes bien dans l'économie en direct, une émission où ce matin, nous venons de parler de PER, plan épargne retraite et prévoyance. Et pour continuer, nous parlerons de la dictée pour tous et de protection de données, avec à mes côtés Dominique Etcheverry, chef d'entreprise en tant qu'accent. Oh. Qu'agent général, c'est AXA qui me bloque, agent général d'assurance exclusif AXA, spécialisé dans les domaines de la prévoyance et patrimoine. Abdella Boudou, fondateur de la Dictée pour tous, cet événement autour de la langue française devenu incontournable. Et Nathalie Lemarchand, fondatrice de NLC, une entreprise dont l'objectif est de sécuriser les entreprises et leurs dirigeants. J'enchaîne avec vous, Abdella Boudour. Donc encore merci d'être là avec nous ce matin. Racontez-nous cette histoire de la dictée pour tous.
À la base, depuis l'âge de mes 16 ans, j'organise des événements dans mon quartier.
D'accord. Vous habitez où?
Argenteuil. Argenteuil, excusez-moi.
D'accord.
Comme on a Enghien, c'est pas trop loin.
C'est à côté, on est voisins, oui.
Et mon père, il était engagé dans le quartier, le premier club du quartier, qui s'appelait à l'époque l'ASVA. Au Val Nord, au club de foot, et il m'a toujours ramené avec lui depuis mes 3-4 ans jusqu'à mes 15 ans. J'ai vu qu'il s'impliquait plus que sa mission de dirigeant du club. Il organisait des tournois de foot, des sorties à la mer pour les jeunes, il les ramenait au cinéma et il mettait même de l'argent de sa poche pour financer les petites
sorties.
Donc, arrivé à mes 16 ans, quand j'ai eu cette autonomie dans le quartier, à pouvoir avoir l'autorisation des parents de sortir tout seul. Donc, j'ai organisé des premiers tournois de foot, des pique-niques. À l'époque,
c'est ça, vous avez repris le flambeau de votre papa.
J'ai reproduit la même chose au début du tournoi de foot.
Vous êtes très admiratif, hein, on comprend de votre papa.
Ouais, et surtout, c'est qu'il m'a donné cette confiance, c'est-à-dire... Il gagnait des coupes à la maison, des tournois de foot dont il était entraîneur, dont il était joueur. Moi, je les prenais, je les faisais gagner aux gens du quartier. Donc, il ne comprenait pas pourquoi les trophées disparaissaient de sa vitrine.
Et plus il les retrouvait après chez.
Ouais, il les retrouvait plus du tout. Non, il n'y avait plus de traces, madame.
Même pas. Non, mais je veux dire chez les autres équipes.
Non, même pas, même pas.
Même pas.
Je croyais terminer à la brocante après les coupes. Et plus je prenais de l'âge. Et plus je prenais conscience des problématiques du quartier.
Ouais.
Donc j'ai commencé à faire des distributions de denrées alimentaires au-dessus de mes, on va dire, vers la vingtaine. Après, j'ai fait les distributions de cadeaux chaque période de Noël. Et carrément, des fois, on faisait des cortèges en voiture. On allait dans plusieurs cités du quartier parce qu'il y a plus de 20 000 habitants dans le Val-Nord. Et il y a le Val-Sud à côté, on se retrouve à plus de 40 000. Et arrivé à une année, en 2012... Quand je distribue des fournitures scolaires avant la rentrée, en août, les mamans m'interpellent le lendemain, les jours qui suivent, et me disent « Abdella, ça serait bien que tu organises des actions autour de l'orthographe. » Je me suis dit, à chaque fois je leur donne ou je leur fais des événements où ils prennent du plaisir, loisir, c'est gratuit. J'ai dit « Là, je vais les pousser à réfléchir. Je dis, il n'y aura pas beaucoup de monde. »
Donc, étiez pessimiste.
Ah oui, madame. Je vais vous expliquer mon enfance et l'enfance des gens des quartiers du Val-Nord, avant qu'il y avait les smartphones. Notre refuge, c'était la bibliothèque municipale qui était sur la dalle d'Argenteuil.
D'accord.
Quand il neigeait, quand il faisait froid, quand il pleuvait, on allait tous là-bas. Mais madame, quand je vous dis on allait tous là-bas, c'est-à-dire il n'y avait pas de centre de quartier, il n'y avait pas d'espace jeunesse, il n'y avait pas d'association qui réunissait les jeunes. On se réfugiait tous là-bas. Et le directeur, Gabriel Lacroix, que je salue, ancien directeur, maintenant il est à la retraite, il faisait un tour, c'était comme un maton. Il faisait un tour dans dans toute la bibliothèque. Celui qui ne lisait pas, il n'avait pas un livre entre les mains, il devait sortir de la bibliothèque.
D'accord.
Donc madame, c'est ça qui m'a donné aussi
ce goût de la lecture.
Hein. Cette lecture d'ouvrir des livres.
Il faut m'appeler Jacqueline, hein, Abdella, Jacqueline, c'est plus sympa.
D'accord, excusez-moi.
Non, je vous en prie, je vous en prie.
Et donc... C'était notre refuge, c'est-à-dire j'ai toujours eu ce lien à cette bibliothèque. Donc ce premier événement, je suis parti voir Gabriel Lacroix et je lui dis, je dois organiser une dictée, je sais que c'est un challenge, c'est un risque, je vais mettre que 40 chaises. Jusqu'à la veille, j'étais en train de distribuer des flyers au quartier, je dis non, il n'y aura personne. Et un petit, il a tué ma motivation. J'ai dit, lui là, il a déclenché un doute en moi, alors que d'habitude, je suis serein dans mes événements dans mon quartier. Mmh. Je lui donnais un flyer, je lui dis, ouais, demain, il y a une dictée. Il a regardé le flyer, il avait même pas 9 ans. Il m'a dit, quoi, une dictée? Mais c'est pas demain la rentrée. J'ai dit, ah, là, il va avoir zéro jeune.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Le jour de l'événement, je mets 40 chaises, on se trouve à 250 participants.
Oh. Ah là là!
Assis
incroyable.
Sur les marches, sur la bordure, je vois des gens même debout en train d'écrire. Je cours après.
Mais alors, du coup, c'était à quel endroit que vous l'aviez
sur
fait?
Sur la dalle d'Argenteuil.
Oui, mais. Ah oui, donc à l'extérieur?
Oui, à l'extérieur.
Ah oui,
madame.
C'était l'été?
C'était l'été, mais madame, quand, à 4h, 5h du matin, quand je mettais les tables, les chaises, je préparais la sono, il y avait des petites gouttes de pluie, madame.
Ah!
Ah, j'étais en train de lever les mains aussi.
Je ne vais pas m'appeler Jacqueline.
Ah, Jacqueline, désolé. Et on se retrouve à 250 participants. Je cours après Gabriel Lacroix, qui nous sort des grandes bandes dessinées pour que les gens ils aient un support pour pouvoir écrire. Mais il me dit, Abdella, t'as intérêt à tous les récupérer. Sinon, je vais te les facturer. Mais ça va. Les participants, ils les ont tous redonnés. Et après cette dictée-là, on fait des posts sur les réseaux sociaux. Il y a quelques médias qui étaient présents. Il y a un buzz énorme où beaucoup d'associations, des mairies, des habitants, des parents d'élèves me sollicitent un peu partout dans la France. Et je ne vous cache pas que la majorité venait des quartiers populaires.
Oui, oui.
Donc, depuis l'âge de mes 16 ans à mes 28 ans, j'ai fait que des événements où je suis arrivé à la dictée. Et j'avais pu inspirer, accompagner pas mal de jeunes, même des plus aînés, à organiser des événements, des actions dans le quartier. Donc, ils reproduisaient la même chose. Mais
bien sûr.
À l'époque, il y avait... Je veux dire, on restait que dans notre cité. Il n'y avait pas cette connexion qu'on a aujourd'hui où tout le monde se mélange dans toutes les cités.
Bien sûr,
c'est-à-dire
que
tu restais dans ta cité, tu faisais que ta cité. On était des chauvins dans une ville, dans un quartier. Il pouvait avoir des frontières qui n'existent pas pour quelqu'un qui vient de l'extérieur.
Oui.
Bref, donc je me suis dit, Abdella, ça serait bien d'organiser des événements à l'extérieur de ta ville. Donc, quand j'ai vu ce buzz énorme, madame, Jacqueline, j'ai refusé toutes les sollicitations en Ile-de-France.
Oui.
J'ai dit, je veux mon concept, mon idée,
oui.
Là, à une étiquette propre. Nationale.
Ah oui, parce que vous avez été... On a essayé de vous récupérer un petit peu pour...
Oui, c'était plus facile, le réseau, les gens qui me connaissent, d'organiser à Sartrouville à côté, ou à Cormeil en Parisie, ou à la Colombe.
Donc, excusez-moi, Abdella, je voudrais juste qu'on revienne sur ce premier événement où il y a eu 250 personnes. Déjà, qui est-ce qui a rédigé la dictée au départ? Parce
j'ai
qu'il
pris
fallait...
un extrait.
Oui.
C'était sur D'Artagnan.
D'accord.
Si je ne me trompe pas, hein, peut-être vous allez rigoler. Je crois que c'est Chateaubriand, hein, c'est ça? Non? Pas du tout? Non, le scooter?
Non, c'est pas Chateaubriand. Okay,
je
ne
sais plus. Eh bien, c'est un texte sur les mousquetaires.
Oui.
Et il était long. Oh, il était long. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai plus peaufiné mon texte parce que 80% des personnes qui viennent à mes dictées ne sont pas des amoureux de l'orthographe. Moi, je ne suis pas un amoureux de l'orthographe. Je suis juste un amoureux d'organiser des événements et de réunir les gens. C'est-à-dire de valoriser cette mixité. Le nom de l'association, c'est Force des Mixités. Quand j'avais 20 ans, je me prenais la tête sur le nom parce que je me suis dit, je vais valoriser la France et je vais réunir toutes ces mixités, que ce soit culturelle, sociale, générationnelle, et de les réunir à travers mes événements. Et aujourd'hui, la dictée, c'est la plus belle des vitrines et ça a étouffé même le nom de l'association. C'est pour ça qu'au début, le concept, il s'appelait Dictée des Cités. Mais j'arrivais à réunir des personnes des quartiers aisés qui venaient dans les quartiers populaires pour faire la dictée. Et quand ils sortaient de la dictée, ils me disent, mais le texte, c'est assez difficile. Hein. Alors qu'ils n'avaient pas gagné. Ils me disent, oui, mais c'est un texte que j'ai choisi avec différents extraits. Ils me disent, mais nous, on pensait que c'était adapté aux gens des cités.
Ah.
Donc ça m'a fait cogiter d'avoir plusieurs réflexions comme ça dans plusieurs territoires.
Oui.
Donc j'ai dit, non, le nom n'est pas fédérateur. Donc j'ai changé avec Dictée pour tous. Et quand j'ai fait Dictée pour tous...
Et là, maintenant, c'est le succès.
En flèche. Par exemple, j'ai eu la première opportunité. Au début, c'était que des étapes. Mmh. C'était un one-shot dans plusieurs villes qu'on faisait jusqu'en 2017. Et arrivé en 2017, on me propose d'organiser un événement à la Galerie des Batailles au Château de Versailles. Quand je sors du Château de Versailles, je vois la grande statue sur le parking de Louis XIV, sur son cheval. Mmh. Je le regarde et j'ai encore l'image. Je me dis, si j'ai fait chez le roi, je ferai chez le président.
Je peux faire partout. Ouais.
Donc j'ai couru après Monsieur Emmanuel Macron pour organiser la dictée à l'Élysée. Déplacement, je voyais qu'il était à Marseille, j'envoyais des gens de Marseille. J'ai l'état à Paris, j'y allais.
Oui, vous êtes opiniâtre, hein, on a compris.
J'ai un an, madame, Jacqueline, j'ai réussi à faire cette dictée à l'Élysée. Il a accepté.
Magnifique.
Et après, quand j'ai fait l'Élysée, j'ai décidé de déléguer le projet. C'est-à-dire de prendre ce concept, le mettre entre les mains de parents d'élèves, des mamans, d'essayer de faire vivre leur quartier, leur école, de sauver les jeunes de toutes les mauvaises tentations autour de la délinquance, des associations sportives ou autres, des associations de quartier. Et je leur délègue et ils organisent eux-mêmes un championnat, je les accompagne. Il y en a, ils organisent des championnats carrément régionaux. En Occitanie, l'association des arts urbains, à Marseille, en Alsace, en Loire-Atlantique, bref. Et après, l'Élysée, j'ai pu tout faire.
Oui,
sans prétention, c'est-à-dire le toit de l'Arc de Triomphe, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Tour Eiffel, j'en oublie peut-être encore. Et j'ai pu faire des grands stades de foot, comme le Parc des Princes, Groupama Stadium à Lyon, faire un livre autour de la dictée et une application. Mais moi, mon but, madame Jacqueline, c'est vraiment, c'était réunir les gens autour de l'orthographe, parce que les mamans m'ont demandé surtout de sensibiliser les jeunes, mais surtout valoriser le quartier.
C'est ça. Oui, il y a une phrase qui revient dans le. On va parler d'une autre dictée qui a lieu là dans 2 jours. C'est la plus belle façon d'être ensemble, en fait. Hein. C'est la phrase qui définit cette dictée pour tous.
Tout à fait. Et on est ensemble, mais surtout autour de notre patrimoine linguistique. Et toute personne qui vient vivre en France, la première chose qu'il doit faire, c'est d'apprendre et de maîtriser la langue pour pouvoir communiquer.
Complètement.
Et moi, quand je parle aux jeunes, c'est surtout de s'enrichir au niveau du vocabulaire. On n'est pas tous faits pour faire de longues études,
oui.
Mais on a besoin de communiquer, défendre des
avoir
idées,
un minimum,
des opinions,
oui.
Peut-être un projet, que ce soit associatif ou entrepreneur. Et surtout d'éviter toute violence verbale. Parce que je pense que la violence verbale ou physique dans certains coins, dans certains milieux, elle vient parce qu'il y a ce manque de vocabulaire, ce malentendu,
oui, oui.
De mal comprendre la personne ou se mal faire comprendre. Et c'est surtout ça que je veux faire. Et c'est pour ça qu'à travers mes dictées, c'est peut-être dictée pour tous. Mais c'est vraiment de la culture pour tous parce que je distribue des livres à chaque participant. Et dans toutes les dictées, j'en ai fait même dans les prisons. Pour adultes, pour mineurs, pour femmes, pour hommes. Là, la semaine prochaine, je suis à la maison d'arrêt d'Oni avec des détenus adultes. Mais j'aime organiser des événements.
C'est ça.
Mais je sais que cet événement-là, il a plus d'impact de tout ce que j'ai fait. Et il arrive à...
Il a une grande portée.
Tout à fait. Et je veux redonner cette confiance aussi aux jeunes. J'ai vu dans des maisons d'arrêt pour mineurs, ce qui m'a fait mal.
Oui, ça vous a touché.
C'est que j'ai vu des personnes avec un talent, avec des belles écritures, à faire des zéro faute. Et malheureusement, avec l'influence et avec l'environnement, ils se retrouvent dans des mauvaises situations et ça leur cause des gros problèmes. Et j'espère que cette dictée, le fait de montrer qu'on est capable de terminer une dictée, de gagner aussi ce challenge et surtout d'avoir ce livre qui permet aussi de lire et de... Comment ça veut dire? De s'évader là où on est. On peut être dans un HLM, on peut être dans les hôtels sociaux aussi. Je distribue pas mal de livres dans les hôtels sociaux sur Argenteuil parce que je me dis que la condition des enfants est assez difficile d'être dans une seule chambre avec ses parents. Donc, moi, j'ai vu que la bibliothèque municipale m'a sauvé.
Et je comprends.
Au lieu de rester
ça a vraiment été
et de voler des vélos, des motos ou autres,
oui,
et tout
oui,
ça,
oui,
et des
oui,
gens
oui,
de son âge,
oui, oui.
Ben, moi j'allais, mais quand il pleuvait, ben, je préfère.
Vous alliez lire.
À la bibliothèque, et ben, je sais que ça m'a sauvé et je pense que ça peut sauver beaucoup de monde. Et pour terminer sur autour de la bibliothèque,
oui, oui.
J'ai vu que nous, en tant qu'Argenteuillais, habitants du quartier du Val-Nord, on a un grand privilège et un grand luxe d'avoir une bibliothèque en bas de notre bâtiment. Et c'est quand je fais le tour de tous les quartiers, je suis prêt à 1000 dictées aujourd'hui, depuis 2013. c'est pas tous les quartiers
qui ont la chance,
une bibliothèque ou une bibliothèque qui bouge, qui se déplace. Et en général, la bibliothèque, elle est au centre-ville ou à côté de l'hôtel de ville. Et malheureusement, je pense que si on mettrait l'accès à la culture, ça sauverait beaucoup de générations.
Les installer dans des endroits plus sensibles comme pour vous.
Tout à fait.
Et alors, Gabriel Lacroix, il est au courant de forcément de cet énorme succès de vos dictées.
Oui, quand j'ai sorti mon livre, c'était la première personne que j'ai appelée et à qui je l'ai offert. C'était important pour moi, même s'il était à la retraite, d'être toujours reconnaissant envers ce qu'il a fait.
Oui, parce qu'il vous a vraiment sauvé la mise ce fameux jour.
De rentrer dans une bibliothèque où le directeur est chaleureux et à proximité du public, de ses équipes, on le ressent. C'était pas quelqu'un qui disait « Ah, lui, il m'a fait... » Des fois, j'allais à la bibliothèque, je faisais des bêtises. Des cache-cache.
Excusez-moi,
j'étais chief. Donc, des fois, il m'attrapait. Il dit, c'est bon, là, tu sors, t'as pas de livre entre les mains. Mais c'est pas parce que les autres jours, je revenais, il me disait, non,
ça va, il a réussi à vous donner.
Non, toi, tu m'as rendu dingue hier, tu reviendras plus. Donc, il nous laissait toujours une chance.
Il
a fait partie de notre éducation. Donc,
bienveillant.
Tout à fait. Et je pense que des Gabriel Lacroix, il y en a un peu partout dans toute la France. Et c'est important de les valoriser et de les mettre en avant parce que c'est vraiment des personnes de l'ombre.
Alors, les trois musquetaires, c'est Alexandre Dumas. Et ce que je trouve incroyable, c'est que, en fait, la dictée, quand on est à l'école, c'est un peu une angoisse. On se dit, quand on nous annonce qu'il y a une dictée, voilà. Et alors que là, vous arrivez à fédérer autant de monde et personne veut la rater. Ça, c'est formidable.
C'est pour ça que le premier jeune avec qui j'organisais la dictée, il m'a dit, c'est pas encore la rentrée, je vais pas venir à ta dictée. Mais il est venu quand même.
Il est venu.
Mais notre dictée, elle est différente de celle de l'école.
Oui.
Premièrement, à l'endort de l'école, à proximité des habitations, on essaie toujours de trouver des coins populaires et occuper l'espace public. Deuxièmement, à l'intergénérationnel, c'est-à-dire un enfant peut se retrouver à côté de son papa, de sa maman. J'ai déjà vu des tables où il y avait l'arrière-grand-mère, la grand-mère,
oui, il y avait toute la famille.
Et tout ça. J'ai dit eux, et carrément ils viennent, on dirait ils sont venus pour faire un pique-nique.
Oui.
J'ai disposé les tables et les chaises, ils viennent, ils déplacent toutes les tables et les chaises, ils disent ah, ici c'est notre camp familial. Et bref, après il n'y a pas d'organisation de triche, ça va, ils sont respectueux. Et bref, il n'y a pas de notes, le texte est assez court. Parce que je veux redonner cette envie et de les laisser sur leur faim où ils se disent « Ah non, c'est quand la prochaine ?» Et ça marche très bien parce que je reçois souvent des messages et des personnes. C'est quand vous revenez « Ah, j'ai raté la dictée à Strasbourg, là c'est la prochaine à Paris. » Donc les personnes y reviennent. Et surtout, c'est que à la fin, ce qui est beau, c'est quand ils récupèrent leur copie avec le texte imprimé corrigé où on leur donne la définition des mots difficiles. Ils sont tous là à se comparer les copies.
Leurs copies.
Et c'est un bon comportement, un bon geste de leur part, parce que je me dis, s'ils commencent avec cette dictée-là, peut-être ça va se remettre en question par rapport à l'école, peut-être par rapport à certaines choses, et peut-être utiliser des mots qu'ils ont appris, qu'ils ont découverts, ou peut-être un auteur, et peut-être acheter son livre et participer. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait le succès. Et je ne vous cache pas que d'avoir des personnalités qu'on lui l'ait dictée, c'est magnifique. Un enfant de Sevran qui gagne la dictée au quartier des Rougemont et qui se retrouve quelques semaines après à l'Élysée avec Madame Brigitte Macron, cette dictée elle m'a fait sortir du quartier et atteindre d'avoir accès à...
Oui, ce sont des beaux exemples à suivre.
Ouais, par exemple, avec Monsieur Gagnel-Malet, on avait fait plus de 1000 participants à la Galerie des Batailles au Château
d'accord,
de Versailles.
D'accord.
Monsieur Gagnel-Malet, le texte... Oui, tout à fait. D'accord. Le texte, et Maïté Nabiraben, c'était en 2019, le texte, il y avait des mots très, très difficile de Mora. Il arrivait à dicter et en faisant rire le public. On s'est dit, celui-là, il est formidable. Il est formidable avec la gestuelle. Donc, c'est que des bons souvenirs. Et surtout, je vous parle d'un jeune de Sevran ou même de Marseille qui vont à des grandes finales dans des lieux historiques. Mais moi aussi, elle m'a fait voyager. J'ai pu aller au Cameroun, à Yaoundé, avec l'artiste d'Adjou, le frère à Monsieur Gims, où on a fait la dictée dans un orphelinat. J'ai pu aller à Naples, faire une dictée avec des Italiens, des jeunes Italiens qui étaient en école d'hôtellerie. pour voilà, bah, ils apprenaient le français. On a fait la dictée dans le château avec où il y a le conseil municipal avec le maire de Naples. On a pu faire ça à Milan
oui,
aussi.
Oui, c'est devenu international presque.
Tout à fait,
alors.
Au Maroc.
Ouais, ouais, ouais.
Donc il y a des belles histoires autour de la dictée. Et pendant le Covid, on faisait des dictées en live sur Facebook.
Ah, oui,
on
oui.
a pu atteindre des plus de 500 000 vues, par exemple à la dictée à la Tour Eiffel qu'on avait fait en live pendant le confinement. Donc franchement,
c'est incroyable.
La dictée m'a beaucoup apporté et peut-être j'ai apporté ou j'ai influencé pas mal de gens parce que dans les quartiers ils reprennent les dictées et c'est beau. Je me dis au moins j'ai laissé un héritage et je le délègue parce que je veux pas être égoïste.
Et votre papa alors aujourd'hui doit être fou de votre succès.
Ah mon papa il est très content.
Ouais, ouais.
Il peut aller à l'Élysée corriger des copies avec Brigitte Macron, avec Madame Brigitte Macron. Il a corrigé les copies des participants. Non, c'était
trop.
C'est beau.
Abdella, l'heure tourne et je crois que on pourrait vous écouter jusqu'à la fin de l'émission.
Ouais, la dictée des boss.
Voilà, je voudrais qu'on dise un mot de la dictée des boss. J'avais autre chose à vous dire, mais bon, ça me reviendra. Alors, on parle de la dictée des boss qui a lieu donc ce jeudi 8 février 2024. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé ma question quand même parce que vous êtes nombreux pour organiser tout ça aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui j'ai pas mal d'associations à qui je délègue le projet. On est plusieurs.
D'accord.
Le concept de la dictée pour tous. Maintenant, il m'appartient pas qu'à moi. Il appartient à plusieurs personnes.
Voilà,
et dès que je vois des personnes fiables,
délégué.
Tout à fait. Et on essaie surtout de pas s'essouffler. Donc, on essaie de créer plusieurs déclinaisons autour de la dictée pour tous. Que ce soit la grande dictée du sport, là, avec la promotion
oui,
du sport.
Qui va,
la
qui nationale. Vont démarrer, là, le 10 février, j'ai vu.
Ouais, on a fait depuis le 20 janvier, on est en tournée. C'est le ministère des Sports qui porte l'événement. Et on fait des étapes dans toute la France jusqu'au 27 avril avec une grande finale à l'Académie française, à l'Institut de France.
Oh là là,
et
c'est
porté par Monsieur Vincent Roger, qui est
délégué
ministériel. Et on fait des activités sportives pendant cette dictée. Et aussi, on a fait la grande dictée de la santé, où on réunit les patients et les agents d'hôpitaux. On a commencé il y a quelques mois à Argenteuil. Et on est en train de préparer les autres étapes quand on va faire les beaux jours pour donner aussi ce goût. Parce que j'ai vu des enfants aussi qui avaient des grandes maladies, qui ont participé, qui étaient contents. D'avoir gagné une dictée, ça leur donne je leur ai donné le sourire à travers une dictée alors qu'ils sont dans leur lit d'hôpital et ils n'étaient pas motivés à venir participer, certains.
Au départ, oui.
Et là, on organise une dictée, des bosses.
Voilà, cette dictée des boss, je la présente bien parce que je le fais pour vous, mais aussi pour Pierre Cuchely, qui est quelqu'un que je ne cache pas que j'aime beaucoup. Donc c'est ce jeudi 8 février 2024, donc en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, la CPME, la FFB 95, le MEDEF 95, le département, la préfecture, donc beaucoup de partenaires territoriaux importants. Donc elle aura lieu à partir de 17h30, route de Cormeilles, à la salle des fêtes Atrium Argenteuil. Et on se disait avec Pierre Cuchely, que j'ai interviewé là, il y a une dizaine de jours, justement sur la dictée des boss, qu'on imagine tous ces chefs d'entreprise en train de réviser leur conjugaison et puis peut-être leur vocabulaire même.
Oui, tout à fait. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté l'école.
Ouais.
Là, ils ont une secrétaire ou un comptable. Donc, les chiffres, rédiger les mails, les courriers, l'administration, ça fait longtemps. Je veux dire, c'est pas tous les chefs d'entreprise parce qu'il y a tous les domaines. Il y a les artisans. Il y a pas mal de domaines que je maîtrise pas, mais il y a plusieurs catégories. Mais pour revenir à cette histoire de la dictée des boss, Pierre Cuchely, c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué, qui est vraiment sur le terrain, sur le territoire du Val d'Oise. Et comme on est une grande ville, nous, Argenteuil, on le croise souvent. Et c'est quelqu'un d'humain qui a toujours été là à nous soutenir et à nous conseiller, même dans ce qu'on faisait, les événements dans le quartier, même à passer et donner des coups de main. Donc on a eu cette discussion, comme il a son mandat de président de la Chambre des commerces d'industrie du Val d'Oise, de réunir les différents entrepreneurs et de les valoriser autour de la dictée. Mais on a la chance d'avoir une présentatrice de BFM Business qui sera là, Alexia Borg, qui a accepté de participer à cette première dictée. Et j'essaie toujours, quand j'ai un concept, quand j'ai une idée ou une déclinaison, de lancer des, et d'essayer dans ma ville à Argenteuil, et ensuite de peaufiner pour pouvoir le défendre dans plusieurs territoires et régions de France.
De France. Vous savez que mon invité, Dominique Etcheverry, s'est inscrite à la dictée des boss, du boss. Donc, vous allez la retrouver jeudi.
Je traque.
Moi, si vous voulez, je vais vous donner un conseil. Révisez les mots rares.
Ah, quand même.
Il faut réviser les mots rares. Parce qu'on...
Oui, mais
non,
il
n'y en a pas beaucoup. Mais je vous dis pourquoi. Comme on sait qu'il y a un grand niveau. Je veux dire, il y a toujours des pépites au niveau de l'orthographe, de tous les âges, dans tous les domaines. On essaie maintenant de départager avec des mots rares. Donc, si vous pensez que vous allez faire un zéro faute, révisez les mots rares pour...
Donc, on a un scoop là, hein,
oui,
Dominique.
Je ne pense absolument pas au zéro faute. Mais bon, on va tâcher d'y tendre.
Non, mais après nos textes, nous, notre but, c'est vraiment de
réunir,
prendre un plaisir, qu'on passe un beau moment, et je pense que ça va insuffler pas mal d'entreprises qui seront présentes pour organiser ce style d'événement auprès de leurs salariés, et c'est le but. On a la chance d'avoir une très belle langue, on a la chance surtout, comme j'ai pu le voir dans différents pays d'Afrique, d'avoir accès à l'éducation nationale, à la scolarisation gratuite, que ce soit primaire, collège, lycée, et surtout d'avoir ces différentes aides de personnes bénévoles autour de l'aide aux devoirs. Et moi, je sais que si j'aurais pas eu tout ça, tout ce cadre et des professeurs, des institutrices passionné, jusqu'à Gabriel Lacroix à la bibliothèque, je n'ai pas eu cette envie, cette confiance en moi. Le fait d'avoir des personnes qui vous encouragent,
on sent que vous avez une reconnaissance éternelle.
Tout à fait. Il y a des chefs d'entreprise en général qui durent, je veux dire, plus de 2-3 ans pour moi. C'est vraiment des passionnés et c'est des personnes qui cherchent la rigueur et qui se remettent en question. Et ces personnes-là, si j'arrive à les inspirer à organiser ce type d'événement, je pense qu'ils prendront un plaisir de le faire auprès de leurs salariés ou peut-être l'environnement, là où ils sont installés, dans l'endroit de la ville ou du secteur où ils sont. Et peut-être que ce soit des parents qui sont salariés dans leur entreprise, peut-être qu'ils feront la même chose auprès des parents.
Absolument. C'est la transmission.
Et,
oui.
Tout à fait. Et cette transmission, madame, je vois l'impact que ça, c'est magnifique.
Abdella, c'est formidable. Bravo, bravo, bravo pour cette initiative.
Non, merci à tout le monde qui me donne la confiance.
Que vous avez su, grâce à ça, développer les valeurs de solidarité, d'égalité, de faire ensemble. Et puis, enfin voilà, c'est les mots manquent pour décrire cet événement. Bravo infiniment.
Merci à vous.
Merci infiniment et bravo, félicitations.
Merci.
On marque une nouvelle pause et ensuite je donne la parole à Nathalie Lemarchand. À tout de suite.
Je suis né de la dernière nuit, né de la dernière pluie et du dernier soleil. Je suis né de l'amour qui lit et tout autour qui luit. Regardez-le, mon rêve. Il est beau comme un enfant, innocent, raisonnable et fou, parfait. Il est visible et présent, il est ici et maintenant. C'est ma chance, je sens le vent qui souffle dans mon dos. C'est ma chance, j'attends ce moment depuis le berceau. C'est ma chance. Ça finira, ça existe là ici, ça existe là ici, déjà. Déjà. Je sais les grillages et les murs, les immenses blessures, je les ai vus parler. Je sais qu'il y aura des hivers, qu'il y aura un désert, qu'on ne peut pas l'éviter.
c'est mieux d'être heureux et triste que tout ce qui existe entre les deux. Ne pas fermer le livre, ne pas oublier de vivre. C'est ma chance, je sens le vent qui souffle dans mon dos. C'est ma chance, j'attends ce moment depuis le berceau. C'est ma chance, je sens le vent qui souffle dans mon dos. Qu'importe quand ça finira, ça existe là ici, ça existe là ici. Déjà. Déjà. C'est ma chance, je sens le vent qui souffle dans mon dos. C'est ma chance, j'attends ce moment depuis le berceau. C'est ma chance, je sens le vent qui souffle dans mon dos. Qu'importe quand ça finira, ça existe là ici, ça existe là ici. Déjà. Déjà.
Merci d'être resté avec nous sur EDFM Radio. Retraite et prévoyance, dictée pour tous et protection des données sont les thèmes de notre émission de ce matin, mardi 6 février. Et nous continuons notre tour de table avec Nathalie Lemarchand. Je voudrais juste dire, Nathalie, qu'on a appris dans notre petite pause musicale que Abdella avait été était chevalier des arts et des lettres. Hein, donc, encore bravo, Abdella.
Merci, madame.
C'est formidable.
Merci. J'aurais préféré être chevalier du Zodiac. Non.
Nathalie, alors vous, vos spécificités, vous les avez acquises avec un parcours académique assez complet hein, dans le domaine. J'ai vu que vous étiez alors DPO, délégué protection des données, juriste en droit du numérique. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction du ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire traduisez-nous le RGPD, ce que ça veut dire?
En fait, j'ai repris mes études.
Parlez bien près du micro, voilà,
j'ai
Nathalie.
En reprenant mes études, j'ai fait des prises de conscience parce que en reprenant ces études, surtout dans les niveaux supérieurs, on rédige des mémoires, on a des échanges, on participe en fait à des ateliers. Effectivement, la donnée semblait tirée vers le haut, était vraiment prépondérante dans notre système, je dirais, de fonctionnement. Et on laissait en fait des brides de données à chaque fois que l'on...
qu'on abordait ce sujet.
C'est même pas ça, en fait. Quand on va sur les réseaux sociaux, lorsqu'on échange, même moi dans les études, à partir du moment où on met en fait son nom, prénom, en fait, sur un papier, tout ce qui est en fait identifiable, voilà. Donc, ces informations, en fait, laissaient présager déjà, en fait, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et effectivement, j'ai passé toutes les étapes pour justement arriver donc au statut de délégué à la protection des données et effectivement protéger le chef d'entreprise, protéger en fait son client et protéger toutes les personnes qui transmettent, qui rédigent, qui échangent en fait des données, mais comment préserver en fait son identité, comment se préserver,
bien sûr,
face à tout ce qui nous arrive en fait, le hacking, le détournement, tout ce qui est aussi Voilà, sur les réseaux sociaux, donc avec la publicité ciblée, voilà. C'était prépondérant pour moi et voilà. Donc j'étais aussi j'étais salariée.
Ça vous a paru naturel de vous lancer dans cette direction?
Voilà, progressivement, de toute façon, je me suis intéressée à comment protéger en fait la donnée, comment protéger déjà mon identité, comment se protéger, comment faire justement pour accompagner aussi. Parce que j'adore accompagner, j'adore former, voilà. Et c'était quelque chose qui émergeait depuis un petit moment et là aujourd'hui c'est totalement installé.
Vous êtes complètement dedans. Alors il se trouve, et c'est vraiment un pur hasard puisque je ne le savais pas au départ, mais vous étiez vous-même, vous travailliez auparavant chez AXA,
voilà,
mais vous en tant que salarié, c'est ça?
Voilà, exactement. Ouais,
avant de reprendre vos études et puis de vous lancer dans cette nouvelle voie. Alors aujourd'hui, qui sont vos clients?
Mes clients, tout secteur d'activité, à partir du moment où ils traitent des données à caractère personnel. À partir du moment où ils ont des clients particuliers, voire même qui transmettent en fait des données à des sous-traitants, des prestataires, moi j'arrive.
Et vous les formez pour leur leur faire prendre conscience de l'importance de cette protection des données, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, c'est pas encore complètement acquis, c'est pas naturel.
Tout à fait. Je me suis rendu compte. Alors, au début, j'informais, mais le plus juste, en fait, est de former avant d'informer. Et ça, c'est très important de former. Former, en fait, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez complet, une structure pour permettre à chacun, en fait, de s'approprier ce qui est le règlement général à la protection des données. Donc, c'est ce qui se cache, en fait, sous l'acronyme RGPD. Et donc, ce règlement, en fait, donne vraiment beaucoup de lignes. C'est comme c'est comme le code de conduite de la conduite.
Ce que vous disiez,
code de la route, et il faut s'y conformer. Et ça donne en fait vraiment même pas des lignes, mais c'est un texte en fait qui est rédigé, qui vous dit comment faire pour protéger vos données. Et une entreprise en fait doit s'y conformer.
Oui, oui. Sachant que au départ, quand vous rencontrez un client, vous devez faire un audit, j'imagine, pour savoir
audit de
comment.
Conformité,
c'est ça, oui. Et à partir de là, vous lui faites une proposition de mise en conformité par rapport à ce qu'il a déjà lui démarré.
Donc par un jeu de questions, parfois on repose les questions sous une forme différente.
Oui.
Pour aller chercher vraiment, pour aller creuser. Parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, moi, quand j'arrive, le chef d'entreprise me dit « Ah non, mais moi, la donnée, effectivement, moi, je suis conforme, moi, je fais ça, je mets ça en place. » Et puis, en fait, quand on va creuser, quand on va poser, en fait, ce jeu de questions, on va renverser la question, on va la mettre en sens inverse, et puis on va mettre, en fait, des brides de questions avec d'autres, et on s'aperçoit, en fait, justement, c'est une sorte de profilage. On va s'apercevoir que, finalement, non. La protection de la donnée, il faut la mettre en place de façon très étendue et très, très structurée.
Oui, et l'avantage aussi, c'est que j'imagine que le fait de former comme ça vos clients, ça leur donne aussi la possibilité c'est un plus dans leur entreprise.
C'est une légitimité, et surtout c'est le meilleur gage en fait pour asseoir la réputation d'une entreprise et puis d'un chef d'entreprise, et de dire moi je suis conforme au RGPD. Alors, on ne peut jamais être conforme à 100%, mais on met en place dans son quotidien des règles strictes pour protéger les données qui nous sont confiées.
Oui, et là où j'aimerais insister aussi, alors je ne suis pas non plus une spécialiste des RGPD, mais je crois savoir que quand on n'est pas conforme, on peut avoir des contrôles et puis ça peut coûter cher, c'est ça?
La CNIL, justement, qui est le gendarme en France, parfois, enfin, elle fait beaucoup de contrôles, mais parfois, en fait, elle prend un secteur d'activité, comme ça, et a dit, ben voilà, je vais contrôler un panel, en fait, d'entreprises de ce secteur, et je vais voir, en fait, le niveau de conformité. Ça permet de tester, en fait, chaque branche de métier. Et, par exemple, les coachs, soit coach bien-être, Reiki et compagnie, ont été testés, en fait, en 2022. Et sur le panel, en fait, d'entreprises qui ont été testées, il y a une grande majorité qui n'était pas conforme. Et donc, ça permet aussi de jauger donc le niveau de connaissance en fait des chefs d'entreprise et des solo entrepreneurs au niveau du RGPD et au niveau de la réglementation, puisqu'il n'y a pas que le RGPD, il y a aussi une réglementation en fait tout autour. Et donc, du coup, il y a certaines entreprises qui ont basculé en fait sur la répression des fraudes. Tout un process en fait derrière. Il y a eu des amendes, il y a eu des suspensions de sites internet, il y a eu des suspensions aussi d'exercer, voilà.
Parce que ces personnes-là n'étaient pas en conformité. Et vous êtes en train de nous dire que, en fait, ça ne concerne pas que les grosses entreprises, c'est-à-dire entreprises de toute taille, puisque vous citez des exemples d'indépendants, finalement.
Exactement, voilà. Vous devez être garant de la donnée qu'on vous confie. En fait, c'est pas... On vous la donne pas, la donnée. On vous la confie.
C'est ça.
On vous la prête. Et la personne qui vous la prête, elle peut à tout moment la reprendre, dire effacez-moi de vos fichiers, ou alors elle peut dire je voudrais en fait passer chez un autre client ou chez un autre prestataire ou sur une autre plateforme. Voilà, je voudrais en fait la portabilité de mes données. Et après, je veux que vous effaciez tout. Et donc chaque entreprise doit mettre en place en fait tout un process de par exemple comment effacer les données, comment sécuriser. Si par exemple on vient me poser la question comment je sécurise le droit des personnes, il faut écrire en fait des process pour justement après dire je suis passée par tel process pour effacer en fait vos données, voilà ce que j'ai fait. Et s'il y a un contrôle de la CNIL, dire je mets en conformité dans mon quotidien, voilà ce que je fais, j'écris des process et en fait j'écris ce que je dis. Et je dis ce que j'écris.
C'est ça, oui. C'est une sorte de un petit peu de le terme ne vient pas comme ISO 9002. Enfin, ce sont des.
Alors, j'irai pas jusqu'à la norme, mais de toute façon, à partir du moment où vous avez une réglementation, vous avez un règlement, vous avez des lignes directrices européennes, vous avez la loi informatique et liberté. Donc, il y a quand même des lois aussi. Il faut s'y conformer.
C'est ça. C'était le mot certification qui ne me venait pas, mais ça, c'est une sorte de certification quelque part.
C'est une certification, effectivement. Mais bon, c'est le gage en fait aussi de la bonne conduite de son entreprise. Parce que vous savez, les données en fait peuvent être confiées aussi par les salariés. Les salariés vous confient des données aussi à leur entreprise. Et l'entreprise doit sécuriser les données de leurs salariés.
Complètement. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'une non-conformité RGPD de certaines entreprises peut être considérée comme une concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale, à partir du moment où les données ne sont pas utilisées en fait à bon escient.
D'accord.
Et donc là, dans ces cas-là, alors la concurrence déloyale, en fait, c'est quelque chose d'assez particulier, qui est réprimé, en fait, de toute façon. Mais concurrence déloyale, ça peut être vis-à-vis de prestataires, de sous-traitants, de toute entreprise. Voilà, donc on utilise mal, en fait, les données pour avoir plus de rentabilité, plus
c'est
de
sûr.
Gains. Non, ce n'est pas le but, en fait.
Ouais.
Le but de règlement, c'est que, on puisse pas faire de concurrence, de mauvaise concurrence, de toute façon. Le règlement, il est là pour que la donnée, l'information soit diffuse, soit claire, elle soit fluide et surtout très sécurisée dans tout le système européen et voire même mondial.
Au-delà, oui. Je me retourne vers Dominique Etcheverry parce qu'on a un petit peu discuté avant l'émission. Vous disiez que vous, chez AXA, vous êtes très, on essaie de vous sensibiliser à cette conformité.
On est plus que sensibilisés, c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations et tout est mis en œuvre pour que justement les données ne fuitent pas. Donc il y a des choses qui sont formellement interdites et c'est très difficile effectivement de respecter car on a très vite fait de se relâcher.
Tout à fait.
Mais sans forcément avoir une volonté
de
nuisance.
C'est ça.
Et
on n'a pas le réflexe
voilà,
de.
Et même les clients souvent ne se protègent pas non plus parce que ils sont capables de m'envoyer tout ce qu'ils veulent par mail. Moi, je fais beaucoup de prévoyance, donc je reçois énormément de pièces médicales. Donc, évidemment, on les retransmet tout de suite vers une messagerie sécurisée, mais je suis censée ne même pas les recevoir.
Ah non, vous ne
je
vous
ne dois
devez
pas les recevoir.
Pas.
Alors
vous
je le dis à chaque recevoir. Fois, mais bien souvent, je les reçois parce que ça part plus vite que je ne
l'imagine. Que voudriez.
Et voilà. Et du coup, AXA est très très vigilant sur la protection des données. Et effectivement, on a tout un espace où on fait nos bilans sociaux patrimoniaux. Ils sont purgés régulièrement. Les données sont purgées régulièrement.
C'est ce que je conseille moi à mes clients.
Absolument.
Et j'appelle ça le cleaning day. Hein.
Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire faire au moins une fois par mois un nettoyage de ces bases de données. En fait, une base de données, la base de données de ses clients doivent être, licites, doivent être correctes et doivent être toujours mises à jour pour justement nettoyer.
Il faut être en veille permanente.
Ouais. Ah ben, de toute façon, oui.
Une entreprise,
vis-à-vis de son business, elle est toujours
bien
en veille.
Bien sûr.
C'est la même chose. Son entreprise, c'est donc, il faut toujours être en veille. Il faut toujours s'y conformer.
C'est vrai. Et en même temps, le propre d'un chef d'entreprise, c'est que des fois, il a la tête dans le sac. Il s'occupe de son chiffre d'affaires, de sa trésorerie. Donc, ça peut être
Jacqueline, c'est que quand on vous allez... J'irai sécuriser la donnée lorsque vous aurez pris l'habitude, c'est-à-dire un mode opératoire de comment mettre en place des process, écrire vos process. Après, vous serez...
Oui, ça deviendra naturel.
Exactement. Vous serez confiant. C'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser les données à l'intérieur de l'entreprise vont être aussi confiantes, vont avoir en fait confiance en chef d'entreprise, la direction. Un chef d'entreprise, il a plutôt tendance en fait à vouloir tout faire, être à la mine au moulin, effectivement. Et c'est le propre du chef d'entreprise.
C'est ça.
Je suis moi-même chef d'entreprise.
Oui, je comprends.
Mais le fait d'avoir écrit des process, d'avoir fait des choses, donner une bonne direction à son entreprise fait qu'après, elle roule.
Elle est sur des rails. Aujourd'hui, Nathalie Lemarchand, quels sont vos besoins ?
Mes besoins, en fait, c'est que chacun en fait, puisse prendre conscience que le RGPD, il faut le prendre comme une aide. Comme quelque chose, en fait, comme un règlement, en fait, comme la mise en action qui va leur permettre justement de pouvoir asseoir leur réputation et surtout pouvoir la développer. Parce que moi, quand j'accompagne des entreprises, il y a toujours, je donne toujours des trucs, des astuces. Moi, ce que j'ai acquis, lorsque je travaillais, donc aussi en tant que salarié, ce que j'avais constaté, ce qui pouvait en fait justement être moteur pour les entreprises, parce que je travaillais en collaboration aussi avec les entreprises du BTP, et tout ce que je pouvais en fait leur confier en fait comme astuce, comme truc, comme bonne pratique aussi, je les confie en fait aujourd'hui aux chefs d'entreprise que j'accompagne.
Si on veut vous joindre, que faut-il faire ?
Vous pouvez me joindre sur LinkedIn.
D'accord.
Donc, Nathalie Lemarchand, NLC. Je réponds toujours aux messages.
Très bien.
Parfois un petit peu de délai, mais je réponds toujours aux messages. Et si vous souhaitez justement vous renseigner, vous informer ou vous former en fait au RGPD, je réalise un atelier gratuit d'1 heure, donc en visioconférence, le 18 mars.
Très bien. Bah écoutez, le message est passé. Il se retrouvera évidemment sur le podcast, hein, comme une fois qu'il sera mis en ligne. Et puis on pourra peut-être en reparler. On en reparlera sur IDFM de cette formation du 18 mars.
Et je vais mettre en place des ateliers. Les ateliers donc pour les chefs d'entreprise.
Voilà, pour former, comme vous l'avez dit, il est important avant d'informer, il faut former.
Voilà, donc c'est je démarre ma boîte, je développe.
Oui.
Et après donc la formule renforcée. C'est pour les personnes qui développent et qui,
c'est ça.
Qui et veulent le, en fait se former sur le RGPD, renforcer en fait leurs connaissances sur les textes en vigueur et les nouveaux textes et voilà.
Et le troisième thème, c'est comment fidéliser, accroître ma réputation avec le RGPD.
Tout
dans
à
votre
fait.
Atelier.
Exactement.
Merci Nathalie, merci pour cette présentation. On imagine que il y a beaucoup de travail à l'horizon, hein, compte tenu de tout ce que vous nous avez appris ce matin.
Tout à fait. On ne va pas utiliser des grands termes pour pouvoir alourdir en fait ce qu'est le RGPD, mais découvrez-moi aussi.
Oui.
Venez me découvrir et venez découvrir en fait le métier.
Eh bien écoutez, j'espère que cette émission aura été l'occasion de le faire. Voilà, les 90 minutes de l'émission sont presque écoulées. On se quitte pas vraiment comme ça. On fait un petit tour de table. Donc, Dominique, un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Écoutez, je suis ravie d'être venue.
Nous aussi.
Et puis ça m'a permis de rencontrer
Abdillah Boudour déjà, oui, que vous allez revoir jeudi.
Ils sont sur des domaines très différents l'un de l'autre, c'est absolument passionnant. Et voilà.
Donc, et Nathalie, sur le RGPD.
Sur le RGPD, ça c'est au cœur de mon métier tous les jours.
On aura peut-être le plaisir d'en discuter.
Avec plaisir.
Dominique.
Oui.
Merci Dominique. Abdillah Boudour, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Merci pour l'invitation.
Je vous en prie. Merci à vous d'être venu.
Je suis tellement dans ma bulle avec mes événements chaque semaine. Donc, c'est toujours enrichissant de découvrir d'autres domaines et des personnes passionnées par leur métier, surtout ouais. d'avoir pris le courage de monter dans l'entreprise. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai collaborer et pourquoi pas les voir en tant que participante ou lectrice d'une dictée autour de la thématique, leur domaine, avec un texte écrit par Sonia Sali.
Complètement. En tout cas, Abdellah, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans notre station et merci. Dès que vous aurez des nouveautés à annoncer, n'hésitez pas, on sera un plaisir de pouvoir les communiquer.
C'est gentil.
Merci à vous, merci. Nathalie, le mot de la fin, c'est pour vous.
Eh bien, merci de m'avoir invitée.
Je vous en prie.
En tout cas, Jacqueline. Et puis, j'ai eu plaisir à rencontrer Dominique et Abdellah. Hein, donc, deux beaux profils.
Ouais.
Et vous aussi. Hein,
merci.
IDFM. Merci beaucoup.
Merci. Écoutez, on est tous ravis de vous avoir accueilli ce matin. Et puis, donc, rendez-vous, hein, n'oubliez pas, le 8 février, c'est-à-dire après-demain, à Argenteuil, 17h30, la dictée du boss. Pour
Des boss.
Oui, je croyais que c'était au singulier. Donc, vous voyez, je fais une faute d'orthographe.
Non, il n'y a pas de souci, madame.
On va découvrir.
Bon, il ne m'aura jamais appelé Jacqueline. Hein. C'est pas grave. Merci à vous. Donc, merci en tout cas d'avoir été les invités en direct, de l'économie en direct, et puis chacun dans votre domaine, donner envie d'en savoir plus sur votre activité. Merci à vous tous de nous avoir suivis, auditrices et auditeurs. Merci Christophe pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible, comme j'ai déjà dit, sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Belle journée et bonne semaine.